Est-ce qu'on a deux rois? Non? OK. Non. Deux rois. Chapitre 14, verset 25. Vous allez voir pour la première fois qu'il est parlé de Jonas. Alors, lorsqu'il y avait un roi qui était pas très gentil, on va commencer au verset 23. La 15e année du règne d'Amatia, le fils de Joas sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath et Fer. Alors, c'est là où, la première fois, on entend parler de Jonas. Alors, Jonas était déjà un prophète dont Dieu s'était servi pour amener une réalisation à Israël. Alors, malgré qu'Israël était infidèle, Jonas avait courageusement annoncé à un roi qui n'était pas fidèle à Dieu qu'il allait quand même rétablir les limites du pays, et ça s'est accompli. Alors, Jonas était un prophète. Dans ce livre, on va traiter beaucoup de la faillite, de l'endurcissement d'un prophète humain, mais qui mène finalement, comme je l'ai dit, au plus grand réveil de toute l'histoire d'avant Jésus au niveau des païens. Alors, introduction, le thème du livre de Jonas est « La miséricorde de Dieu s'étend sur les nations étrangères et Dieu se sert de son peuple pour parler de sa miséricorde. » Alors ça, c'est vraiment le livre. Vous allez voir que le peuple d'Israël, dans son histoire, avait beaucoup été centré sur lui-même. Alors, le peuple d'Israël voyait vraiment les nations comme des ennemis. Dieu avait appris dans la loi, vous ne copierez pas les nations, vous ne copierez pas leur idolâtrie, vous ne copierez pas leurs coutumes qu'ils font religieuses. Et Israël avait pris à cœur de faire ça parfois à un tel point que, pas tout le temps par rapport à l'idolâtrie, mais avait pris à cœur que les nations, bon, sont pas comme toi, fait qu'ils avaient vu comme ennemis. Et Jonas, vous allez voir que lui, c'était particulier chez lui. Il n'aimait vraiment pas les nations ennemies qui venaient à servir Israël, évidemment. Israël était asservi par le pays que Jonas était envoyé. Alors, Jonas avait peut-être encore moins le goût d'aller voir cette nation qui était la Syrie. La date de rédaction de ce livre-là, alors les événements rapportés dans le livre de Jonas nous indiquent que ce livre-là se déroule avant la destruction du royaume du Nord, en 722 avant Jésus-Christ. Alors, Israël était séparé en deux à cause de l'infidélité du fils de Salomon. Et il ne restait que les tribus de Juda et de Benjamin qui étaient au sud. Et au nord, tu avais les 10 autres tribus. Et les 10 tribus d'Israël, comme je l'avais déjà mentionné, et sûrement que Yannick l'a déjà mentionné aussi, continuellement avaient été infidèles à Dieu par son idolâtrie. Les rois qui se sont succédés en Israël, quand on les lit, ils ont tous été infidèles les uns après les autres dans leur rôle de roi, de préserver la nation de l'idolâtrie et d'unifier le peuple. Ce qui fait qu'un moment donné, la nation du Nord a été exilée en Assyrie. Mais un peu avant que ça se passe, quand encore la Syrie était encore le royaume dominant du monde, c'est à ce moment-là que Dieu donne un message à Jonas. Et comme on l'a vu, Jonas est mentionné dans 2 Rois 14, 25, au temps du roi Jéroboam II, qui a régné entre 793 et 753. Alors, ça place le livre de Jonas aux alentours de 760 avant Jésus-Christ. Fait qu'on a la période de silence de 400 ans environ. 360 ans avant ça, on a environ le livre de Jonas, un petit peu avant que Israël soit vraiment complètement exilé dans les différents pays de la Syrie. L'auteur de ce livre-là est évidemment la plupart des gens vont s'entendre pour dire que c'est le prophète Jonas, mentionné plusieurs fois dans le livre. Et ça, c'est intéressant parce que ce livre-là, on peut être sûr que c'est un livre authentique parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand on écrit nos biographies ou quand on écrit l'histoire de nos vies, c'est rare qu'on montre nos pires côtés. Souvent, quand vous écrivez l'histoire de vos vies, qu'est-ce que vous voulez montrer en premier? Vous voulez montrer vos bons côtés, ce que vous avez réussi, votre bon salaire, vos réalisations, vos beaux enfants, votre belle famille. Tout ce que vous avez de beau, vous voulez le marquer dans votre biographie. Mais là, vous voulez pas marquer, bon, ben, j'ai triché à là, j'ai volé ça à un moment donné. C'est pas les choses qu'on aime marquer. Mais dans le livre de Jonas, Jonas s'est vraiment pas vu sous un jour, son jour le plus glorieux. Alors, on peut être sûr que ce livre-là, s'il a été gardé, c'était parce qu'il était authentique. Ça, il n'y a pas de problème. Et même le fait que le peuple d'Israël l'a gardé comme étant un livre prophétique, ou est-ce que c'est un livre qui parle genre de l'amour de Dieu pour les nations, on peut voir encore plus que ce livre-là était considéré par les Juifs de l'époque comme étant vraiment un livre prophétique authentique. Et non pas comme une histoire, comme aujourd'hui les gens des fois vont penser que mon Jonas doit être une allégorie, un homme avalé par un poisson. Bon, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut vouloir dire, mais... Fait que même le Seigneur Jésus lui-même va citer Jonas 2 ou 3 fois dans son ministère. Alors, pour ceux qui croient en la Bible, qui croient au Seigneur Jésus, juste déjà que Jésus le cite comme étant un livre historique, ça suffit pour prouver que c'est un livre qui est historique. Le contexte historique, comme ça a été parlé à plusieurs reprises jusqu'à présent, l'Empire assyrien a été à l'origine de la chute de Samarie et de la déportation du royaume du Nord des 10 tribus qui étaient restées au Nord. Alors Ninive, qu'on va lire dans ce livre-là, était la capitale de l'Assyrie, ce royaume qui était le royaume le plus puissant du monde dans cette époque-là. L'Empire assyrien a justement été la puissance mondiale pendant environ presque 300 ans, entre 900 et 600 ans avant Jésus-Christ. Les Assyriens avaient des pratiques atroces envers les nations qui lui étaient soumises. Ils étaient très dangereux et les nations d'alentour nourrissaient envers eux une forte haine et une grande rancune. Alors, Ninive était probablement le dernier endroit où un Israélite aurait voulu aller en mission. Et comme je l'ai dit tantôt, certains pensent que c'est pour cette raison que Jonas n'est pas allé dans cette ville. Mais Jonas lui-même nous dit pourquoi il est allé. C'était pas un prophète peureux, c'était pas quelqu'un qui « Non, j'ai peur, je veux pas y aller ». Si on regarde dans Jonas, chapitre 4, verset 2, il va nous le dire pourquoi est-ce qu'il voulait pas aller dans cette ville-là. Alors, chapitre 3, je vais vous faire un petit peu d'avance, mais là, maintenant qu'il y a eu le gros réveil dans la ville de Ninive, Jonas dit à Dieu, Jonas 4, 2, il pria à l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. » Fait que Jonas voulait vraiment éviter qu'il y ait un réveil dans la ville païenne de Ninive. Alors, c'est la seule raison pour laquelle, au départ, il n'y a pas été. Donc, quel est le message? Puis la structure du livre. Excusez, je suis perdu dans mes notes. Structure du livre. Alors, le livre est séparé en 4. Alors, on a Jonas qui rejette justement la mission de l'Éternel d'aller à Ninive au chapitre 1. Le chapitre 2, c'est la réponse de Jonas à la miséricorde de Dieu. Au chapitre 3, la mission que Jonas accomplit à Ninive, fait que finalement, il va y aller. Dieu a utilisé un moyen vraiment original pour envoyer finalement Jonas à Ninive. Au chapitre 4, on voit la colère de Jonas face à ce qui se passe à Ninive. Jonas était, comme on l'a vu, pas très content de ce qui s'y passait. Et on voit dans ce même chapitre-là la réponse de Dieu. Comment Dieu répond à cette colère-là de Jonas du fait qu'il n'est pas content que tout le monde s'est converti? Fait que je sais pas pour vous, moi c'est vraiment l'unique gars que je connais dans l'histoire de l'Église qui appartient à Dieu qui est comme ah, non, des convertis, il y en a trop, arrête. Ça arrive pas souvent. Fait que c'est un livre qui est vraiment intéressant. Quel est le message de Jonas? Premier point. Est-ce qu'ils ont mis les points en avant? Okay. Message de Jonas. Fait qu'on va passer au travers. Jonas, on va lire ensemble Jonas 1:1-3 pour passer au travers du livre. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On voit qu'au début du livre, on voit que Dieu demande à Jonas. Alors, comme la majorité des livres prophétiques commencent, on présente le prophète et on dit « Voici la parole de l'Éternel fut adressée à tel homme. » Fait que Dieu donne son message à l'homme. L'homme, habituellement, ce qu'il fait, environ, des fois, il doute de son appel. Il est comme « Ah, ben, je sais pas, tu sais, je suis jeune. » Il y en a d'autres, des fois, qui vont dire « Oui, je vais y aller. » Jonas, lui, c'est drôle parce que les mots même, que la manière dont c'est utilisé dans Jonas, sont drôles parce que Dieu lui dit « Lève-toi et va à Ninive. » Alors, qu'est-ce que Jonas fait? Il dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. » Alors, une réaction unique de la part d'un des prophètes de Dieu de faire complètement le contraire de qu'est-ce que Dieu lui a demandé. Alors, et on voit que Jonas décide de vraiment, le langage qui est utilisé ressemble un petit peu à celui de Caïn lorsque ça dit qu'il est parti loin de la face de l'Éternel. Alors, Jonas, son but, c'est vraiment de s'enfuir, de s'en aller de la présence de Dieu pour ne pas avoir à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. S'en va loin de la face de l'Éternel. Et même les mots suggèrent qu'il descend. Il s'en va loin de la face de l'Éternel. Alors, il descendit à Jaffa, trouva un navire, s'embarqua pour y aller loin de la face de l'Éternel. Et il y a d'autres endroits où, c'est que, plus loin un peu dans le chapitre, Dieu va faire souffler sur la mer et que tout le monde a peur, ça va être marqué que Jonas est encore descendu jusqu'au fond du bateau. Alors, il essaie vraiment de se cacher loin. Il essaie de... Exactement. Fait qu'il descend tout le temps plus loin. Loin de la face de l'Éternel, de descendre, loin de sa face. Alors là, évidemment, Dieu voudrait que son message arrive à Ninive, voudrait que son plan s'accomplisse. Alors souffle une tempête. Les gens ont peur et Jonas, comme Jonathan l'a bien mentionné, on voit le palier où est-ce que Jonas continue à descendre, s'en va dans le fond du bateau et s'endort pendant une tempête, pendant que tout le monde a peur. Jonas, lui, s'inquiète pas. Il dit « Je sais que c'est Dieu qui l'envoie. C'est pas grave, je veux rien savoir, je vais juste aller dormir en bas. » Tout le monde a peur. Et qu'est-ce que les marins lui disent au verset 8? Alors, ils lui disent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? » Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Fait que là, ils venaient de leur dire que c'était le serviteur de celui qui règne sur la mer. Ils étaient sur la mer, alors ils ne sont pas rassurés. Ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Alors, on voit vraiment une situation très spéciale. Jonas s'enfuit. Puis, c'est pas caché. C'est comme, au bout, tu t'en vas à Tarsis. Pourquoi? Ben, je veux m'en aller. Je veux fuir mon Dieu. Bon, qu'il embarque. Viens-t'en là. Puis, il embarque avec lui. Le Dieu permet qu'il y ait une tempête. Il souffle une tempête. Dieu permet que par un moyen païen, où est-ce qu'il lançait le sort, il réussisse à savoir, mais c'est qui nous cause ce problème-là? Et Dieu révèle que c'est Jonas. Et Jonas, c'est juste à expliquer, oui, c'est moi. J'ai désobéi à Dieu, j'ai essayé de m'enfuir. Je m'en vais, tout simplement. La crainte s'empare d'eux. Et finalement, Jonas leur dit, jetez-moi dans la mer. Faites juste me jeter dans la mer pour que la tempête se calme. Et au début du chapitre 2, on voit que finalement, lorsqu'il jette à la mer, un poisson, et non pas une baleine. Je sais que la plupart des gens vont dire Jonas dans le ventre de la baleine, mais la Bible ne nous spécifie pas quel poisson. Il y en a même qui ont été jusqu'à dire que c'était un genre de requin blanc, je crois, parce qu'un homme pouvait y rester comme 3 jours, 3 nuits sans être complètement digéré encore, mais il faut juste que tu te serres un peu. Fait. On sait pas, c'est la leçon de tout ça, c'est on sait pas c'est quel poisson. On sait juste que c'est un poisson qui est envoyé par Dieu pour avaler Jonas avant qu'il se noie dans la mer. Alors, la première leçon qu'on peut y voir là-dedans, c'est la différence entre la punition et le châtiment. Dieu châtie ceux qui lui appartiennent, parfois les châtie fort, et Dieu veut punir ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu envoie Jonas pour punir un peuple qui sont complètement complètement à côté, là, qui sont cruels, qui asservissent des peuples, que leurs péchés sont atteint jusqu'au ciel. Fait que Dieu veut envoyer un jugement. Jonas décide aussi de désobéir, puis peut-être espère justement que ce châtiment-là va vraiment tomber sur les Ninivites. Et Dieu prend le temps avec son prophète, malgré sa désobéissance, malgré son endurcissement. Il ne juge pas son prophète, mais par contre, il le châtie comme il faut. Et il dit, wow, là, tu vas voir, tu m'appartiens, tu vas m'écouter, tu vas voir où est-ce que je vais t'envoyer. Fait que Dieu prend le temps, malgré notre endurcissement, malgré parfois qu'on court loin de lui. Des fois, on ne le fait même pas exprès. T'sais, on veut juste, non, Dieu, regarde, ce que tu demandes, c'est pas mal, là, wow, quand même, là, il ne mérite pas ça. Là. Non, moi, tu veux que je lui fasse du bien? Fait que Dieu demande qu'on fasse du bien à nos ennemis, une somme. Il mérite quand même bien, il mérite la justice, là, fait que non. Fait que, d'une certaine manière, on s'enfuit de Dieu pour dire non, je veux pas faire ce qu'il va faire. Et Dieu, dans sa patience, parce que Dieu est patient, va prendre le temps de nous châtier, parce qu'il dit, je châtie, je reprends ceux que j'aime, pour nous montrer, regarde, c'est qui le boss? C'est-tu toi ou c'est moi? C'est qui va faire sa volonté, là? Fait que ça manifeste la patience de Dieu. Quand on est un parent, je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents ici. Je veux juste savoir combien de parents ici. La majorité. Est-ce que châtier, c'est un signe d'amour ou c'est un signe de méchanceté? Châtier ses enfants, c'est-à-dire genre les punir quand ils font quelque chose de mal. C'est parce qu'on les aime. On veut pas qu'ils aillent dans une voie qu'on sait qu'un jour ça va les détruire, qu'on sait qu'un jour ils en reviendront pas. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les châtier parce qu'on les aime. Dieu, de la même manière, va châtier ses enfants et c'est pas une punition. Dans le sens, c'est pas un jugement, c'est pas que Dieu est méchant. C'est que Dieu nous aime et de cette manière-là, il veut simplement nous ramener à qu'est-ce que lui veut pour nous. Parce qu'il sait que qu'est-ce que lui veut pour nous, c'est ça qu'on a besoin. Même si parfois ça fait mal, même si parfois ça dure longtemps, même si parfois ça reste puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Dieu nous le fait simplement par amour. Trois jours, ça dit que Jonas, dans le chapitre 2, si on continue, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Jésus va réutiliser cette parole-là pour montrer que c'était un type. Excusez, hein, je suis pas clair quand est-ce qu'il faut changer le PowerPoint. Là. Jésus montre que trois jours dans le ventre du poisson, trois jours et trois nuits, c'est un type de qu'est-ce que lui allait faire. Mais lui allait pas rentrer dans le ventre d'un poisson. Il dit, je vais rentrer dans le ventre de la mer. Et justement, dans Matthieu 12, 38. Hein? C'est quoi j'ai dit? De la mer. De la terre, excusez-moi. C'est le Dieu de la mer et de la terre, c'est pour ça. Fait que Jésus allait pas dans trois jours dans le ventre du poisson, mais dans le ventre de la terre. Merci beaucoup. Alors, dans Matthieu 12, 38 à 40, ça dit, « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Alors, le même nombre de jours, simplement pour Jonas, c'était lui qui était coupable, mais c'était de sa faute pour lequel il a été envoyé dans un poisson. Jésus, c'était le juste qui allait trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre pour les injustes. Fait que Jésus s'est montré comme étant un meilleur Jonas. Dans certains commentaires, ils vont même dire que Jonas et Jésus ont un lien de plus, c'est que Jonas et Jésus, Jonas venait d'une ville qui était proche de Nazareth. Quelque part au nord de Nazareth, et que même le tombeau de Jonas aurait été proche, et ce serait pour ça que Jésus aurait pris l'exemple de ce prophète. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez lire des commentaires. Si on continue, dans le chapitre 2, ça dit qu'il y a une certaine repentance de Jonas. Finalement, Jonas se repent. Dieu rappelle alors à Jonas sa mission. Si vous lisez le chapitre 2, vous allez voir son discours que Jonas fait dans le ventre d'un poisson. On se demande tout, qu'est-ce qu'on fait quand on fait 3 jours et 3 nuits, quand on se retrouve dans un poisson? Jonas écrit un poème, un chant pour l'Éternel, pour manifester sa repentance. C'est une certaine repentance. On va voir à quel point est-ce que la repentance a été. Dieu rappelle à Jonas justement cette mission-là qu'il désire voir accomplir. Et cette fois, Jonas obéit. Cette fois-ci, il fait pas comme « je retourne m'enfuir maintenant que je suis sorti du poisson ». Cette fois-ci, il y va. Et comme « bon, j'ai compris, Dieu, t'es un poisson, t'as été assez clair, j'y vais ». On va lire ensemble Jonas 3 pour voir la repentance qui s'est produite à la suite de son discours. Jonas 3. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Oh, on va appeler à la SPCA. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision? S'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Ça, c'est vraiment incroyable. Fait que Jonas est réenvoyé à Ninive. Dieu lui dit, bon, va leur dire qu'est-ce que je t'ai dit. On voit que Dieu dit, crie contre elle. Jonas va dans la ville. Et là-dessus, les commentaires sont pas totalement d'accord. Est-ce que Jonas fait complètement le message que Dieu lui a donné de faire ou il ne fait qu'une partie? Jonas parcourt la ville de Ninive au travers et fait simplement dire « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Pas d'appel à la repentance, pas d'appel à changer d'attitude. En tout cas, rien de qu'est-ce qui nous est dit. Ce que Jonas a décidé de faire, il semble, en tout cas, la plupart des commentaires que j'ai lus semblent dire que Jonas ne fait pas tout le message que Dieu lui avait demandé de faire. Il ne fait simplement que dire, genre, dans 40 jours, vous allez être détruit. C'est fini. Vous n'allez pas faire. Fait que la repentance de Jonas est bonne quand même parce qu'il s'en va à Ninive, mais elle est incomplète parce qu'il est comme, pas grave, ils vont être détruits. Oui, je vais le faire, ton message, je le fais rapide. Fait que, OK, c'est bon, je le fais. Ça ressemble un petit peu à, ça me fait penser des fois à nous autres quand des fois, OK, Dieu, tu veux le faire? Bon, c'est bien. Je l'ai fait. T'sais, Dieu, je l'ai fait. Bon, tu vas me laisser tranquille. J'ai fait qu'est-ce que tu m'as demandé de faire. Fait un message, un court message comme ça, pas grand-chose. Et c'est là que l'incroyable se passe. Le peuple de la ville de Ninive se convertissent, en tout cas, de ce que le texte semble dire, du plus petit au plus grand, se convertissent en entier à l'Éternel. Et pas seulement une conversion de dire, hey, on va mettre le sac, on va mettre la cendre, puis oui, on va essayer que l'Éternel ne dise pas, mais c'est pas juste une manière comme de dire, genre, bon, on va s'assurer que Dieu, on va faire un genre de pénitence, puis là, Dieu va peut-être changer d'idée. Il y a cette idée-là, mais tu vois qu'il dit vraiment que il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Il y a vraiment un changement d'attitude sincère chez les gens de Ninive qui font que Dieu les regarde et dit comme, hey, ils ont changé leur manière de vivre. Je vais juste pas leur envoyer qu'est-ce que j'avais promis. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire. Ça, c'est vraiment incroyable. Voyez-vous comment est-ce que des fois, Dieu peut se servir d'un homme qui pourtant a fait une repentance, mais la repentance était juste un petit pas dans la bonne direction, mais même pas complet. T'sais, il décide de faire un message à moitié. T'sais, que c'est comme, bon, je vais faire à moitié ton message, et Dieu s'en sert d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est la même chose. Des fois, on regarde nos petits-enfants. T'sais, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants quand ils font leur premier pas? Est-ce qu'ils font leur premier pas? Puis là, oh, il manque leur deuxième. Puis là, t'es comme, voyons, t'es donc même pas bon, tu sais. Me semble que c'est pas compliqué, tu sais. Un pied, l'autre pied, tu sais. On n'agit pas de même avec nos enfants. Hey, quand c'est le premier pas de nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On est comme, yes sir! Puis là, ils tombent, là, c'est drôle, tu sais. Mais là, on est content, on les regarde, on est comme, hey, il a fait son premier pas, on prend des photos. Puis c'est juste genre ça, là. Ou quand ils font leur premier mot, tu sais. Puis admettons, ils prononcent même pas comme il faut. C'est de dire papa, puis finalement, baba, genre. Puis là, c'est comme il a dit son premier mot, tu sais. On fait pas comme, voyons, tu sais pas prononcer ton mot, tu sais. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que, Dieu se sert des faits, regarde nos premiers pas, puis il fait pas, des fois on imagine Dieu, c'est comme, tu l'as pas parfait. C'est quoi ça? Vous avez pas d'allure. Il sait qu'on a déjà pas d'allure, Dieu. Il voit bien qu'on a déjà pas d'allure. Mais il veut qu'on fasse des pas dans sa direction. Et même si des fois les pas sont à moitié, même si les pas sont pas tout le temps parfaits, Dieu pourtant, il se réjouit de ça. Il va des fois s'en servir d'une manière qu'on s'y attendait pas du tout. Dieu fait miséricorde à ceux qui se repentent. Et regardez, la repentance sincère, Dieu a une miséricorde incroyable. Des fois, on a juste trop de la misère à l'imaginer parce qu'on est pris avec nos standards humains de la manière dont les êtres humains agissent. Des fois, les êtres humains, on est tellement nerveux de la manière qu'on va agir, c'est comme, il faut que j'agisse comme il faut, parce que sinon, il va me le renvoyer. T'sais. Des fois, nous-mêmes, on est un peu méchants, on renvoie toutes les petites choses que l'autre à côté, il fait pas correct, puis tout ça. Tandis que Dieu, sa miséricorde est incroyable. Dieu, il regarde, c'est d'après Jonas, ça dit, c'est 120 000 êtres humains-là. Ils voient une repentance sincère, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, tu sais, ils ont pas eu des cours bibliques, ils ont pas eu des grosses affaires, ils ont pas eu les études de théologie. Fait qu'ils se disent, on va juste changer notre manière de vivre, on va dire à Dieu, regarde, on regrette, puis on veut pas être détruit, on veut la vie, tout ça. Puis Dieu, il regarde, puis il dit, hey, c'est quelque chose quand même. Un effort sincère, un véritable effort sincère d'une personne qui cherche vraiment à plaire à Dieu. Dieu est content de ça. Parce que Dieu, comme Jésus l'a montré, est comme un père. Il n'est pas comme un autre être humain, justement, qui est sévère, qui est parfois un peu trop perfectionniste. Oui, Dieu est parfait, mais Dieu sait de quoi on est fait. Il sait que on ne sait pas toujours le premier pas. Et des fois, ça peut nous enlever une certaine crainte de faire un prochain pas parce qu'on a peur de ne pas le faire comme il faut. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, cette peur-là, tu sais, de dire, moi, je voudrais faire ce pas-là pour Dieu, mais j'ai peur parce que je ne sais pas si je vais le faire comme il faut. Tu sais, est-ce que je vais peut-être me tromper, puis là, je vais perdre la personne pour toujours, puis c'est fini, peu importe ce que vous essayez de faire. Mais Dieu, il se réjouit des petits pas sincère, si vous cherchez. Je veux pas dire qu'il faut faire tout, on va faire comme on veut, puis c'est pas grave. Dieu, il nous montre dans sa parole ce qu'il veut clairement. T'sais. Mais une personne qui cherche de tout son cœur, Dieu promet que même il va se laisser trouver à lui, sans problème. Fait que ça, je trouve que c'est une belle leçon qu'on peut trouver déjà du chapitre 3. Si on s'en va au chapitre 4, on va voir que cette réaction-là de Dieu, de justement avoir une grande miséricorde, ça plaît pas à Jonas. Qui pourtant, moi, je trouve que c'est une des vérités qui est les plus réconfortantes, parce que je veux que mon Dieu puisse me pardonner, me permettre de faire des erreurs et tout ça, parce que je sais que je vais en faire. Mais Jonas n'est pas content. On va regarder le chapitre 4. Si le but du livre, c'était simplement de montrer comme la conversion, que Dieu convertit des gens, des foules, on aurait arrêté au chapitre 3, mais on dirait qu'on a comme, Dieu veut montrer quelque chose de plus parce qu'il va nous montrer une dernière interaction avec son prophète Jonas qui s'en va à l'extérieur de la ville. Au chapitre 4, on commence au premier verset. Jonas le prit très mal, pas juste mal, très mal, et fut irrité. Ça, regardez pas le PowerPoint, hein, sinon vous êtes. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Je ne sais pas s'il espérait encore que le feu tombe du ciel ou quelque chose. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Avec Jonas, c'est rien à moitié, hein? C'est une grande joie. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui le rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba à défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Tu serais vraiment un enfant des fois. C'est drôle, hein, tu sais. Tu sais, quand un parent il demande, « Ça te dérange-tu, là? » Pas content. Pas content. Ça me fait penser à ça. L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » C'est pour ça qu'ils me demandent des applications. J'ai pas la bonne... Si quelqu'un veut aller me chercher, j'ai pris la mauvaise version en arrière. Si quelqu'un veut me donner une de leurs copies de... Il manque des notes, excusez-moi. Merci. Désolé. Je me demandais pourquoi il me manquait des notes. Ah, c'est ça. Je suis bien moins. Ça, Dieu se sert de nous malgré nos défauts. Et pour vous autres, vous deviez être perdus. Alors, Jonas voit qu'est-ce qui se passe à Ninive. Il voit ce qui se passe et il n'est pas content. Il est vraiment pas content. Dieu va lui montrer que son cœur est mauvais en lui donnant une leçon d'objet. Comme Dieu aime si bien les faire. Comme Jésus-Christ lui-même aimera si bien les faire en donnant des leçons d'objets super simples. Parce que Jésus-Christ prenait des choses de la vie de tous les jours simplement pour nous montrer comment est-ce que on est mauvais. Ça, c'est quelque chose à essayer. On pourrait essayer avec nos enfants, justement. T'sais, on va juste remettre un truc de biscuit là, pour voir ce qu'il peut leur dire, touchez-y pas, puis on va voir s'ils vont le chercher. Bon. Mais Dieu aime ça, faire les leçons d'objets pour pouvoir nous montrer qui est-ce qu'on est réellement. Dieu pose une première fois à Jonas, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter? » Et on voit pas de réponse de la part de Jonas. Alors Dieu fait pousser un arbre. Puis là, oh, tout d'un coup, ça donne de l'ombre à Jonas. Il est super content. Pas de problème. Mais ça, j'aime ça. Ça va dans le sens que j'aime ça que ça va. Finalement, quand l'arbre lui a donné un petit peu d'ombre, il envoie un ver. Fait qu'on voit vraiment là-dedans la souveraineté de Dieu. Vous allez voir vraiment que Dieu envoie directement les choses à Jonas. Il envoie la tempête lorsque Jonas essaie de s'enfuir. Il fait pousser une plante en un jour ou en une nuit. Ça dit directement c'est Dieu qui l'a fait pousser. Dieu envoie un ver. Fait que un nouveau prophète de Dieu. Dieu envoie un ver pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Alors Dieu peut se servir très bien. Dieu s'est déjà servi d'un âne, alors pourquoi pas d'un ver? Dieu fait souffler un vent chaud d'est et le soleil frappe la tête de Jonas. Dieu est complètement souverain dans la manière dont il veut montrer le cœur à Jonas et ça nous montre une autre belle leçon. Dieu est complètement souverain dans les situations qui nous arrivent pour nous révéler notre cœur. Si vous pensez que votre situation, des fois on le dira pas comme ça, mais des fois c'est un petit peu comme ça qu'on le pense. C'est comme des fois on a l'impression que Dieu a perdu le contrôle, que me semble qu'il y a sûrement quelque chose qui va pas dans le plan de Dieu, parce que là, il y a quelque chose qui se passe présentement. Puis ça continue, c'est comme, ben là, Dieu, t'es-tu sûr? Là, tu sais qu'est-ce que tu fais? Et on se demande, tu sais, on veut juste, tu sais, Dieu, je suis juste checké, là. Me semble que ça irait mieux si ça tournerait comme ça. T'sais. Mais non, la Bible nous affirme que Dieu est pleinement souverain et est pleinement au contrôle de ce qui se passe. Et ça devrait nous donner une compassion pour les gens, en fait. Ça devrait nous amener une compassion pour les gens à dire, genre, pas simplement d'accuser les gens, bon, dans ta situation, qu'est-ce que tu as probablement fait de mal? Bon, tu as probablement fait... Si tu étais vraiment meilleur socialement, probablement que tu n'aurais pas des problèmes avec ces gens-là. Si tu étais meilleur à gérer ton argent, mais tu n'aurais probablement pas ces problèmes d'argent-là. On peut chercher ces choses-là, mais en même temps, on veut voir... Qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train d'essayer? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train d'essayer de faire présentement? Des fois, Dieu ne veut pas nécessairement toujours nous apprendre une leçon. Là, ici, clairement, on voit que Jonas veut apprendre une leçon, veut révéler son cœur. Des fois, Dieu veut révéler le cœur de la personne, des personnes qui sont autour de nous. Est-ce que Dieu va montrer que son Église est en train de pouvoir soutenir une personne qui est dans la souffrance, qui est dans la difficulté? Fait que des fois, c'est pas toujours le cœur de la personne qu'on check, mais c'est les personnes autour. Fait que dans la souveraineté de Dieu, ce qu'on cherche à faire, c'est toujours de savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux que l'on voit là? Parce que c'est tellement, ça peut être tellement varié. Je me souviens, je lisais un commentaire de Don Carson qui disait, tu sais, on a des fois des tendances à avoir des réponses trop faciles aux problèmes des gens. Le problème des gens, c'est comme, bon, solution numéro un, t'as probablement péché. Solution numéro 2, tu mérites ce qui t'arrive. Solution numéro 3, Dieu a probablement une grande leçon à te montrer, c'est le temps que tu l'apprennes. Fait que des fois, on a les réponses trop rapides aux souffrances des gens, c'est « Oh, inquiète-toi pas, ça va aller mieux, t'sais, après la pluie, le beau temps. » On dit qu'on sait même pas qu'est-ce que Dieu veut faire, peut-être que ça va se régler dans 2 ans. Fait que la question qui est importante à aller chercher, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que l'on apprenne. Que l'on sache de cette situation-là. Est-ce qu'il veut qu'on sache notre cœur? Est-ce qu'il veut savoir le cœur des autres? Est-ce qu'il veut qu'on patiente? C'est ça qu'on veut savoir. Dans le cas de Jonas, on voit clairement que Dieu essaie de révéler son cœur pour montrer « Est-ce que tu fais bien de t'irriter? » Il dit directement. Pour nous autres, des fois, c'est un petit peu moins évident. On essaie de trouver tout ça, on cherche. Mais Dieu nous a quand même donné sa parole, nous a donné des gens autour de nous, des gens sages. Des fois, il y en a des moins sages, mais il y a sûrement des gens sages autour de nous. Il y a son Église pour nous montrer, mais qu'est-ce que tu veux, Dieu? Dieu nous a donné son esprit. Aujourd'hui, avec grâce au Seigneur Jésus, on a l'esprit de Dieu pour nous montrer, mais qu'est-ce que tu veux que je voie Dieu dans cette situation-là? Fait qu'allez pas tout de suite aux solutions rapides, aux phrases clichés rapides, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un va pas bien, parce que des fois, c'est peut-être pas du tout qu'est-ce que vous pensez, peut-être qu'il souffre pour voir qu'est-ce que vous avez dans le cœur, quand vous allez vous présenter à lui. Alors, fin de la parenthèse, continuez. Alors, justement, là, soleil, on voit que Dieu pousse. Et là, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu du bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, tu as pitié d'une plante qui a duré une journée, mais tu n'as pas pitié de 120 000 hommes. Là, on ne voit pas la réponse de Jonas parce qu'il était probablement bouché. C'est probablement pour ça que le livre de Jonas finit qu'il ne répond pas, parce que probablement Jonas était bouché. Mais en fait, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi le livre finit là. On ne sait même pas c'est quoi la réponse de Jonas à cette question de Dieu. On le saura un jour si le Seigneur veut nous le montrer sur la Nouvelle Terre quand il va revenir. Mais la leçon qu'on peut apprendre de ça, c'est Dieu se soucie de notre entêtement. Dieu, encore une fois, n'est pas comme nous et ne dit pas, il n'est surtout pas comme moi. C'est pour ceux qui me connaissent que malheureusement, la patience, c'est quelque chose que j'apprends avec les années. C'est des fois quand quelqu'un est entêté. Tu continues, c'est comme, tu fais-tu bien de t'entêter? Oui. Tu fais-tu bien de t'entêter? Oui. Tu fais-tu bien de t'irriter? Oui. Tu fais-tu bien de t'irriter? Oui. Puis il persiste. À un moment donné, moi, je me décourage de cette personne-là. Puis je suis comme, regarde, tant pis pour toi, là. Regarde, tant pis pour toi. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu se soucie de notre entêtement. Il veut nous amener à lui. Il veut nous amener à ce qu'on se tourne vers lui, qu'on se penche vers lui, qu'on s'épanche vers lui. C'était ça le mot que je cherchais. Qu'on s'épanche vers lui. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Comme une expression que j'ai entendue, il a l'épaule large. Il peut en prendre. Il n'a pas de problème. Fait que Dieu, il se soucie de notre entêtement. Si vous êtes entêté, je peux vous dire une chose, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu va continuer. Il va vous poursuivre. Des fois, il va peut-être faire, « OK, c'est bon, tu veux, je te laisse, je vais te laisser un petit peu d'espace. Tu » sais. Parce que Dieu est un Dieu sage. Puis Dieu, il sait que si il essaie de vous étouffer, ça va justement juste vous étouffer. Mais malgré notre entêtement, Dieu va des fois nous laisser un petit peu d'espace, puis là, il va revenir, il va dire, « Bon, es-tu prêt, là? » »« Non, bon, c'est bon, OK, je suis prêt à te laisser la place. » Puis Dieu, c'est drôle parce que Dieu reste souverain là-dedans. C'est même pas d'une manière, genre, où ce qui est soumis à notre volonté, il attend que, bon, on va attendre que... Dieu va quand même se servir, il va se servir de, des fois de nos entêtements pour faire des choses incroyables, mais sans souci, puis il va continuer jusqu'à temps parce que sur cette terre, de notre point de vue humain, Dieu nous dit, tu prends la décision, tu agis avec moi. Fait toi aussi, faut-tu dire, genre, ben moi, je m'en vais dans la même direction que toi. Puis Dieu attend juste ça, il est toujours prêt. Il va pas jeter dehors quiconque vient à lui, disait Jésus. Il va jamais le faire. Et ça, c'est un grand encouragement pour nous. Les applications, je vous en ai déjà donné comme plusieurs en parcourant à travers le livre de Jonas. Quelques applications, vous pouvez voir à la fin de votre document. Désolé si je suis pas linéaire nécessairement avec le document. J'essaye, mais des fois, les parenthèses m'emportent. Accomplir la volonté de Dieu n'est pas une option. Nous avons été sauvés pour une vocation. Le but de cette application-là, c'est pas de vous culpabiliser puis de dire, genre, vous devez faire quelque chose pour Dieu. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu vous a sauvé, si Jésus-Christ est devenu votre Seigneur, si vous avez dit, oui, Seigneur Jésus, je veux recevoir le pardon de mes péchés, je veux recevoir ton Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans une nouvelle vie, Dieu, le Seigneur Jésus, a maintenant le droit sur votre vie. Il a le droit de dire à quoi votre vie sert. Parce qu'avant d'appartenir à Jésus, c'est ça qui arrivait, c'est que nous, on disait, moi, j'avais décidé à quoi ma vie sert. Je vais l'utiliser pour ce que je veux. Mais, maintenant que si vous appartenez à Jésus, Jésus vous dit, ta vie m'appartient, c'est moi qui décide ce que tu fais avec. Alors, dans le langage théologique chrétien, on appelle ça, c'est une vocation. Dieu vous a sauvé pour une vocation. Dieu veut vous utiliser pour quelque chose. Il vous a donné des dons pour ça. Tout comme à Jonas, c'était son prophète. Il avait donné la parole pour pouvoir aller à Ninive. Va à Ninive, va faire mon message. Puis tu vas voir qu'est-ce qui va se passer, ça va être extraordinaire. Jonas s'est décidé, ben moi mes préférences, j'aime mieux pas, fait que je m'en vais de mon bord. Fait que vous voyez que Dieu court après Jonas, ça s'est fait finalement. Mais Dieu nous a sauvés pour une vocation. Fait que, il faut chercher la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de... Et c'est drôle, c'est ça, je pense que je disais ça hier à un de mes amis. Parce que des fois, on a l'impression que la volonté de Dieu, quand on la cherche, c'est un petit peu comme ça. Fait que ça, c'est... On va dire je suis Dieu, c'est pas vrai, là, mais c'est juste une image. Je suis Dieu. Ça, c'est la volonté pour votre vie. Puis ça, c'est le paquet de boules dans lequel les enfants jouent. Puis là, je jette la volonté de votre vie dans le paquet de boules. Je mélange un petit peu, puis là, je vous dis, saute là-dedans, puis essaie d'être trouvé. Puis là, tu sautes, puis là, t'es comme, voyons, c'est pas celle-là. Puis là, tu cherches, t'essaies des affaires, puis c'est comme, voyons, ça marche pas, tu sais. On a l'impression que chercher la volonté de Dieu, des fois, c'est ça. Fait que Dieu, il est pas... en train de jouer avec vous autres, de dire genre, bon, ben la volonté de Dieu, pour moi, je vais la trouver. Non, Dieu, il l'a révélé dans sa parole. C'est quoi sa volonté claire. Quand vous avez une situation devant vous, la première question que vous vous demandez pour trouver la volonté de Dieu, c'est pas, Seigneur, j'ai besoin d'une voix maintenant qui me dit quoi faire. Ce que Dieu veut, c'est comme, bon, okay, Seigneur, c'est quoi que ta parole dit? Je le sais pas, fait là, Dieu nous l'a donné, on cherche, on voit, OK, c'est ça que Dieu veut que je fasse, on le fait. Des fois, Dieu va nous donner des des pistes un petit peu plus précises pour certaines situations. Et puis là, habituellement, il va rendre ça assez clair pour qu'on le sache. Fait que Dieu a une vocation pour nous et il est pas en train de jouer à la cachette avec vous autres. Parce que je peux vous dire, si Dieu joue à la cachette, Dieu c'est le meilleur pour se cacher. Si lui se cache, on peut pas le trouver. Mais il s'est pas caché. Dieu a pitié des gens autour de nous. Fait que ça, c'est encore un autre indice de la volonté de Dieu pour nous. Dieu a pitié des gens autour de nous. Tous les gens qui sont ici, que vous pouvez voir dans la salle si vous regardez, Dieu a pitié de ces gens-là. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, Dieu vous aime. Dieu a compassion de vous. Dieu veut bâtir en vous, veut faire quelque chose. Alors, et Dieu veut se servir de chacun d'entre vous pour aider dans ce plan-là chacun d'entre vous. Des fois, si vous allez avoir le temps d'aider certaines quelques personnes, c'est correct. Dieu, si tout le monde s'y met, d'après moi, on va avoir pas mal tout couvert. Ça va bien. Fait que soyez attentifs aux gens que Dieu met autour de vous. Les gens qui sont là ici, les gens qui sont là juste à côté de vous, qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que Dieu veut que vous simplement alliez les saluer, peut-être pour une première fois, peut-être que vous avez jamais salué les gens qui sont autour de vous, peut-être qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que Dieu veut que vous puissiez demander comment est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que Dieu veut que vous partagiez à une personne qui est autour de vous quelque chose que vous vivez qui est particulièrement difficile et vous avez besoin de prière pour ça? On est là pour ça. Les gens ici, on est là ici. On veut être attentif à ce qui se passe autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, comme dit l'expression des fois, s'asseoir sur notre salut, confortablement? Ou est-ce qu'on va chercher activement, qu'est-ce que Dieu tu veux que je fasse? Et je peux vous dire, ce que Dieu veut qu'on fasse, des fois, ça peut être difficile. Mais à la fin, c'est ce que Dieu veut nous apporte la plus grande joie. Peut-être pas le plus grand confort, mais la plus grande joie. Sur quoi Dieu ne vous lâche-t-il pas? Fait qu'on a vu avec Jonas que si Dieu, c'était simplement pour parler de l'évangélisation des païens, fait qu'aller évangéliser aussi, il aurait arrêté le livre au chapitre 3. Le chapitre 4 nous montre une certaine insistance de Dieu pour Jonas. On voit qu'il ne le lâche pas. Alors, sur quoi Dieu ne vous lâche pas présentement? Sur quoi sentez-vous que Dieu il met comme le doigt sur le bobo, si on peut dire ça comme ça? Ce qui est bien, c'est de pratiquer des œuvres dignes des enfants de Dieu. OK, c'est-à-dire, genre, il y a des choses dans votre vie, vous savez que peut-être... Non, vous savez pas que peut-être, vous savez clairement, c'est comme... Ça, je le sais... que c'est pas de cette manière-là que ça devrait être fait. Je sais que c'est pas cette attitude-là que je devrais avoir, mais c'est tellement plus facile. J'ai toujours agi comme ça. C'est comme ça qu'on le fait. Bon, je suis pas le seul à le faire. Puis, fait qu'on est différent, on est différent. Mais c'est pas digne du Seigneur qui est mort pour vous et qui est ressuscité. Alors, et Dieu est en train de mettre le doigt dessus là. Il fait comme. Hein? Ça fait-tu un petit peu mal? Puis là, il fait comme, oh, oui, je le sens, mais je vais faire semblant que je le sens pas. Puis, oui. Fait. Marcher humblement avec Dieu, c'est pas juste simplement faire des actions, c'est une soumission. C'est vraiment de dire, je lâche tout, puis c'est bon, je le fais à ta manière. Fait que, si Dieu met le doigt sur quelque chose, c'est vraiment pas pour dire, genre, je t'écœurerai avec. C'est comme, non, aujourd'hui, c'est ça qu'on va travailler. Demain, ce sera peut-être autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça. Et des fois, on arrive, c'est comme, non, Dieu, pas ça. Pitié, pas ça. C'est comme, oui, ça aujourd'hui. Et c'est comme, OK, c'est bon. Puis c'est pas toujours facile à dire, tu sais, dans le sens, je dis ça là, mais dans ma propre vie, je sais que quand Dieu pèse sur quelque chose, des fois, il pèse fort, il pèse longtemps avant que je décide de faire, OK, c'est beau, Seigneur, c'est bon, je lâche. Est-ce que ça va pour le livre de Jonas? Super. Fait que pour le prochain cours, c'est le livre de Michée. Si vous voulez voir un peu ça ressemble à quoi, vous pouvez lire la moitié, je pense que c'est la moitié du livre, non, le trois quarts en fait. Il dit Michée 1 à 6. Vous pouvez même finir avec le chapitre 7 si vous voulez, il y a juste 7 chapitres selon dans la lecture. Alors, je vais prier, puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Papa du ciel, je veux te remercier parce que pour moi, c'est tellement une vérité réconfortante de savoir que tu es un Dieu plein de miséricorde. Et Seigneur, j'y crois sincèrement. Je le sais que tu es un Dieu qui est pas comme des fois les êtres humains nous font sentir, Seigneur, ou des fois comme nous, on se sent avec les êtres humains de dire faut tout que je fasse correct, j'ai pas le droit à l'erreur, si je fais pas ça comme il faut tout de suite, je suis faite. Non, Dieu, t'es patient avec nous, lent à la colère, riche en bonté. Alors, Seigneur, je veux simplement pouvoir montrer ta bonté aux gens. Et Seigneur, l'exemple le plus riche de ta bonté, c'est vraiment que t'es venu mourir pour nous. Des gens qui, justement, sont entêtés comme des Jonas, qui veulent juste faire les choses à leur façon, qui des fois trouvent ça juste plus facile ou c'est juste une préférence ou etc. Seigneur, mais t'es patient avec nous, Seigneur. Et je veux t'en remercier parce que cette patience-là, Seigneur, tu nous la laisses pour que ça puisse nous mener à la repentance, pour qu'on puisse changer de direction. Alors merci, Seigneur. Et ce que je te demande, c'est que s'il y a des gens ici qui se demandent qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, soit dans une situation particulière ou maintenant, je prie que tu puisses leur montrer d'une manière claire, que peut-être qu'ils puissent voir autour d'eux des gens, que soit ils vont pouvoir s'ouvrir à eux ou peut-être que des gens qui vont aller s'ouvrir à eux, Seigneur. Alors merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Saint-Esprit et ton Fils. Et c'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen.